comme à l'avant-scène. Eh bien, comme promis, ce matin, nous commençons une nouvelle série qui va débuter environ 8 semaines. On vous en a parlé. La série s'appelle « La vie comblée, si Dieu prenait soin de vos besoins ». On appelle ça « Si Dieu prenait soin de vos besoins » parce qu'on aimerait lancer un défi à tout le monde qui nous écoute, de pouvoir donner une chance à Dieu de répondre à leurs besoins. Dieu est capable. Dieu veut, il s'intéresse et il veut répondre à vos besoins. Et la série va durer 8 semaines. On vous a déjà donné les titres, mais laissez-moi vous les énumérer. Où trouver l'espoir dont vous avez besoin? Ça commence ce matin. Dieu peut penser vos blessures voilées. Où trouver la force dont vous avez besoin? La joie parfaite. Vers une paix intérieure. Un nouveau départ. Premier pas vers la confiance en Dieu. Et nous allons terminer la série avec ce thème. Quand la chance n'est pas de votre côté. Et j'espère que vous serez avec nous pour toute la série. Je suis certain que Dieu va faire beaucoup de choses. Il a beaucoup de choses à nous dire à travers ses messages. Et nous espérons, c'est notre prière, que vous serez enrichis, bénis, édifiés à travers cette série. Parce que notre prière, c'est que Dieu puisse nous fortifier à travers cette série, fortifier notre foi. Eh bien, ce matin, on regarde où trouver l'espoir dont vous avez besoin. On a tous besoin d'espoir. Le 21 janvier 2005, tout récemment, en janvier, qui vient de passer, on pouvait entendre aux nouvelles de Radio-Canada, un prisonnier fume la Bible et se convertit à Jésus-Christ. Alors, dans les prisons du Québec, on interdit maintenant de fumer, c'est un lieu public. Alors, les prisonniers, privés de leurs cigarettes, trouvent d'autres moyens pour fumer. Et au lieu du tabac, certains se servent de feuilles de thé et des résidus de gomme de nicotine. Le mélange est roulé dans une page de la Bible et on sert de la Bible parce que c'est du papier qui brûle moins vite que du papier ordinaire. Donc, un prisonnier du nom de Robert raconte au journaliste qui suit, il dit « J'ai fumé Matthieu, j'ai fumé Marc, j'ai fumé Luc et avant de fumer Jean, je me suis arrêté et j'ai commencé à lire ». Ce qui était écrit dans Jean, et je me suis aperçu que Dieu m'aimait. Je me suis converti au Seigneur. Et là, je suis un chrétien, puis je ne fume plus. Le gars a découvert un nouvel espoir en découvrant que Dieu l'aimait, même dans les murs de prison. Est-ce que c'est possible d'avoir de l'espoir même en dedans? Absolument, lorsque nous mettons notre espoir en Dieu. Nous avons tous besoin d'espoir. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, un sous-marin est revenu au port de Virginie. Et à son arrivée au port, il est arrivé un bris mécanique, si bien que le navire s'est mis à couler avec tout l'équipage qui était en dedans. Alors, ils ont évidemment immédiatement expédié la garde côtière pour sauver l'équipage. Et ils ont d'abord envoyé une équipe de plongeurs pour atteindre la coque du sous-marin afin de trouver ce qui s'était passé. Et alors que les plongeurs nageaient autour du sous-marin, un des plongeurs a cru entendre des coups de marteau qui venaient de l'intérieur de la coque du sous-marin avec des signaux en morse. Ils ont été capables de décoder le message et le message était « Y a-t-il de l'espoir? » Y a-t-il de l'espoir? C'est la question la plus fondamentale pour chacun d'entre nous. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour l'avenir? Sur qui ou sur quoi pouvons-nous compter? Y a-t-il de l'espoir? Vous savez, cette question est posée à chaque jour par des milliers de personnes à travers le monde entier. Par exemple, une personne qui est dans une clinique médicale vient de passer des tests, elle attend les nouvelles du médecin et elle demande au médecin, y a-t-il de l'espoir? Sur le lit de l'hôpital, par exemple, tu entends la question, y a-t-il de l'espoir? Un couple qui est en difficulté sur le bord de la séparation, pose la question, y a-t-il de l'espoir pour nous autres? Des gens qui sont criblés de dettes se posent la question, y a-t-il de l'espoir? Un enfant disparu, y a-t-il de l'espoir pour le trouver? Plus de 170 000 étudiants se posent la question ces jours-ci. Y a-t-il de l'espoir? On peut faire 40 jours sans nourriture, 3 jours sans boire, 8 minutes sans prendre d'air, mais on ne peut pas vivre une seconde sans espoir. L'espoir est essentiel à l'homme. Et quand il n'y a plus d'espoir, la vie n'a plus de sens. On a besoin d'espoir pour vivre. Un poète québécois a même dit, « L'homme est désespérant d'espoir. » Nous avons besoin d'espoir. Le Dr. Harold Wolff, professeur à l'Université de Cornell à la Faculté de médecine, a mené une enquête, une étude sur les effets de l'espoir sur le corps humain. Il a en effet étudié plus de 25 000 prisonniers de guerre pendant une certaine période de temps pour voir l'impact de l'espoir sur eux et la différence que l'espoir fait sur les personnes. Il a découvert sur les 25 000 prisonniers de guerre un groupe qui est sorti parmi toutes les autres, où l'expérience d'avoir été un prisonnier de guerre ne semble avoir fait aucune différence et avoir eu aucun impact. Malgré les tortures, malgré les actes de brutalité dont ils ont fait l'objet, en dépit des abus inhumains qu'ils ont subis, dont l'isolement prolongé et d'autres abus, ce groupe est ressorti de tous les autres, ayant aucune séquelle ni syndrome de stress post-traumatique. Ils n'ont même pas été malades. Ils n'ont même pas eu de flashback ni rien. Ils ont simplement géré l'expérience et ils ont continué leur vie. Lorsqu'il a étudié ce groupe, il a trouvé un dénominateur commun à tous ces hommes. Ils avaient un espoir extraordinaire. Ils avaient un niveau très élevé d'espoir. L'espoir a fait toute la différence et c'est essentiel pour gérer les crises dans la vie. Le Dr. Harold Wolff conclut son étude en disant, « Lorsqu'un homme a de l'espoir, il est capable d'encaisser de rudes épreuves, voire même des châtiments corporels très cruels. Mais lorsque l'espoir disparaît, au dire de ce spécialiste et ce médecin, les gens s'écrasent émotionnellement, physiquement et spirituellement. » Aujourd'hui, on commence justement une série qui s'intitule « La vie comblée, si Dieu prenait soin de nos besoins ». Et nous commençons en regardant la base, c'est le fondement de notre série, où trouver l'aide et l'espoir dont nous avons besoin. Parce qu'après tout, si nous n'avons pas d'espoir, tout ce dont nous allons parler dans les prochaines semaines ne serviront pas à grand-chose. Tu as besoin d'espoir pour croire que Dieu va faire de quoi dans ta vie. Tu as besoin d'espoir pour croire que Dieu peut changer ta situation, que Dieu peut rencontrer tes besoins. On a besoin d'espoir. Y a-t-il une place où nous pouvons trouver de l'espoir, un espoir sur lequel on peut vraiment compter quand on a besoin, quand on se trouve affligé dans des situations difficiles, des situations de crise dans notre vie? Est-ce que ça se trouve? Est-ce que ça existe? Où trouver ce genre d'espoir? Eh bien, la Bible nous dit que nous pouvons trouver l'espoir en Dieu. Dieu est la source de l'espoir. Dans Romains 15, 13, il est dit que Dieu qui donne l'espoir vous remplissent de paix et de joie à cause de votre foi. Alors, vous serez plein d'espoir par la puissance de l'Esprit-Saint. La Sommeur le rend comme ça, que Dieu qui est l'auteur de l'espérance, c'est Dieu qui est l'auteur de l'espoir, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. En d'autre mot, dans la mesure où vous placerez votre foi en Dieu, il vous donne la joie, il vous donne la paix, et il vous donne l'espoir. Et il dit, votre cœur débordera d'espoir. Votre cœur va déborder d'espérance. Pour être plus précis, Dieu dit, si tu veux mettre ton espoir en moi, tu as besoin de le mettre en mon nom. Psaume 52, 11 dit, je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable. Qu'est-ce que ça veut dire, mettre notre espoir dans le nom de Dieu? Comment notre espoir peut se retrouver dans un nom? Comment reposer notre espoir? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans des noms de Dieu? Eh bien, contrairement à nous, vous savez, nous autres, on choisit des noms pour nos enfants qui nous plaisent. C'est une question de préférence. On va choisir Nicole, Françoise, Micheline, Alain. Mon père a des noms, Sodlon. C'est un juif et il a des noms, Michael. Il s'appelle... il y a tellement de noms. Des fois, même, je ne m'en souviens même pas. Je pense qu'il y en a à peu près 5 ou 6. C'est très long. Samuel et Mais pour nous, c'est une question de préférence. Quand on a regardé nos enfants, on a dit, Julie. Elle avait l'air d'une Julie. Quand j'ai regardé mon gars, j'ai dit, ma femme voulait Luc. Moi, attends, un ou les Luc, je ne suis pas sûr. Jean-Luc, on voulait l'appeler Jean-Luc. Puis je savais que ma femme voulait Luc. Alors, quand elle a tellement travaillé fort pour donner naissance à Luc, que quand j'ai regardé Luc, je voulais faire plaisir à mon époux, j'ai dit, oh, on va l'appeler Luc. C'est une question de préférence. Mais dans le temps de l'Antiquité, c'était pas ça. Vous savez que les noms avaient un sens. Le nom reflétait ton caractère. Contrairement à aujourd'hui, c'était pas juste une question de préférence. C'était très sérieux choisir un nom. Le nom te décrivait. Tu disais un nom, ça te décrivait. Ça parlait de toi. Ça révélait une portion de ton caractère. Si c'était à refaire, quel nom on te donnerait? Hein? Robert. On pourrait appeler Robert Gagnon banquier. Hein? Ça serait un beau nom. Banquier, électricien. Ça révélait ton caractère. Un nom. Par exemple, Dieu se sert d'un nom en hébreu pour décrire un aspect de son caractère. Il dit, je m'appelle Jéhovah Shalom. Qui veut dire, je suis Dieu qui te donne la paix. Si tu veux la paix réelle, si tu veux la paix d'esprit, si tu veux avoir un esprit tranquille, si tu veux combattre ton stress, est-ce que c'est pratique aujourd'hui? Est-ce qu'on est stressé aujourd'hui? On fait de l'angoisse aujourd'hui. Si tu veux combattre ça, va au Jéhovah Shalom. Dieu dit, si tu veux la paix, viens la chercher auprès de moi. Je suis le Jéhovah Shalom. Ailleurs, Dieu se sert d'un autre nom pour se décrire. Il dit, je suis Jéhovah Jiré, qui signifie, je suis le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Tu peux compter sur moi. Tu peux venir à moi. Et c'est ce que nous allons faire dans les prochaines semaines. On découvre que pour chaque besoin de l'homme, il existe un nom de Dieu qui correspond à ce besoin-là. Intéressant, n'est-ce pas? Pour chaque besoin de l'homme, il existe un nom de Dieu qui correspond exactement à ce besoin-là. Tu as un besoin, Dieu dit, viens à moi. Tu as un autre besoin, viens à moi. Tu as un autre besoin, viens à moi. Dieu peut répondre à tous tes besoins. À la fin du livre d'Ézéchiel, Dieu donne un de ses noms et il dit, « Je suis Jéhovah Shammah ». En hébreu, ce nom signifie « Je suis le Dieu qui est toujours là ». Je suis toujours présent. Il n'existe aucune place où Dieu n'est pas. Aucune adresse que Dieu ne connaît pas. Tu ne peux pas aller à un endroit sans que Dieu s'y trouve. Dieu est dans ton passé. Dieu est dans ton présent. Et Dieu est dans ton avenir. Dieu est partout. Il est Jéhovah Shammah, le Dieu qui est là. Il est présent. Dieu est dans les bons moments que tu vas passer et Dieu est aussi là lorsque tu passes des moments difficiles. Dieu est dans les bons endroits que tu vas aller et Dieu est dans les mauvais endroits que tu vas aller. Et si Dieu est vraiment avec moi en tout temps, que je le sente ou pas, eh bien cette réalité aura des incidences très importantes sur où je vais trouver mon espoir. Si Dieu est vraiment avec moi en tout temps, alors ça signifie qu'il y a trois sources d'espoir sur lesquelles je peux compter. Vraiment m'accrocher. C'est des ancres à l'âme. Je peux m'accrocher à ça et c'est du solide. C'est pas des peut-être, c'est du solide. Je peux compter sur lui. L'espoir est l'ancre de l'âme. Et ce sont des certitudes sur lesquelles je peux m'accrocher, quoi qu'il arrive. Première source d'espoir se trouve dans sa présence. La présence de Dieu veille sur moi. Le fait que Dieu est là me démontre qu'il est attentif, attentionné à moi. La présence de Dieu veille sur moi. Et vous savez, plus que je vieillis, plus que je réalise à quel point ma vie est en dehors de mon contrôle. On ne contrôle pas tout. On peut penser justement à l'accident de Derek cette semaine. Un jeune homme, 11 ans, le fils de la famille de la fortune, s'en va en voiture. Un homme arrive à toute vitesse, à pleine allure, rentre dans la voiture, se retrouve, il part à voler dans la voiture, un traumatisme crânien. Il s'est retrouvé à l'hôpital et cette semaine, heureusement, Dieu merci, il a subi une intervention chirurgicale au cerveau. Et il va bien. Ça va qu'il est même ici aujourd'hui. Oui, Patrick, ça va qu'il va bien. Gloire à Dieu, hein? Ah, c'est bon. Derek, notre secrétaire André. André a téléphoné mercredi, je pense que c'est mercredi. Il sortait, je pense que ça faisait quoi, il s'est fait opérer mardi. Mercredi, André téléphone dans la chambre d'hôpital. Je lui demande, viens, on va prendre des nouvelles. Elle téléphone dans la chambre, c'est lui qui répond. Il vient de se faire opérer la veille. Il répondait, puis il avait l'air en forme. Hé, hey, gloire à Dieu. Ésaïe 41:10 dit ceci. Ne crains rien. Hein, Patrick, toi, tu y crois, hein? Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. L'heureuse nouvelle, c'est qu'en dépit de ce qui peut m'arriver, il y a bien des choses qui sont en dehors de mon contrôle, que je ne contrôle pas. Mais en dépit de ce qui peut m'arriver, vous et moi, on n'a pas à y faire face tout seul. Dieu est là. Dieu sera avec nous. Dieu sera avec vous. Et c'est l'une des certitudes de la vie sur lesquelles on peut compter. Lorsque je m'accroche à ça, lorsque j'ancre mon espoir là-dessus, c'est du solide. Il y a beaucoup d'incertitudes dans la vie, mais il y en a une qui est certaine, c'est qu'on va perdre bien des gens qu'on aime. Parfois, des gens vont nous laisser. Parfois, c'est des chicanes. Parfois, c'est simplement la santé. Moi, je me rappelle comme c'était hier, ma mère. Ma mère était très affectueuse. Moi, j'ai été élevé avec une mère. Ma mère n'arrêtait pas de me donner des becs. Moi, je recevais à peu près 20 becs, 30. Moi, je n'ai pas eu de crise d'affection. Hein. Là, c'est ma femme qui a des crises d'affection parce que je cours après parce que moi, j'ai été élevé de même. Je l'embrasse tout le temps. Puis là, elle a une crise d'affection dans le sens qu'elle en a trop. Elle dit un peu d'air, Normand. J'ai été élevé de même. Ma mère m'embrassait tout le temps. Elle me serrait dans ses bras, elle me touchait, puis elle m'embrassait, puis tout ça. J'étais élevé comme ça. Alors moi, j'étais un toucheux. Et là, tout d'un coup, ma mère a vieilli. J'avais des longues conversations avec ma mère. On jasait et tout ça. Ma mère était très affectueuse, très attentionnée, tout ça. Et malgré ça, un jour, elle a eu l'Alzheimer. Et tranquillement, on l'a vu changer. Elle n'était même pas reconnaissable. J'allais la voir, elle ne me reconnaissait pas du tout. Ça a commencé tranquillement qu'elle a perdu non seulement des souvenirs, mais elle a perdu des mots. Elle cherchait des mots tellement, elle cherchait tellement que Monet était plus capable de parler. Elle n'avait plus de mots dans son répertoire. Elle est à court de vocabulaire. Elle ne parlait même plus. J'y parlais. J'allais la voir dans la chambre d'hôpital. Tout ça, il n'y avait rien à faire. On la voyait tranquillement partir. Elle était juste assise là, puis elle nous regardait. Et tranquillement, elle est décédée. Il y a des gens que nous affectionnons, des gens qui nous sont très chers, que nous allons perdre. Vrai? C'est hors de notre contrôle. Mais heureusement, Dieu ne nous abandonnera jamais. Jamais. J'ai souvent accompagné des familles à des services funéraires et plus d'une fois, les gens me disaient « Comment je vais vivre maintenant que je suis tout seul? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? » Ou quelqu'un qui vient de perdre son emploi, « Comment je vais être capable de continuer? » Il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui se sent comme ça. Incroyable, vendredi soir, je parlais justement à quelqu'un à Pâques, après, je suis allé la voir et je lui ai parlé. On a su qu'elle vivait une séparation et tout ça. Puis je lui ai demandé, elle m'a même aidé à comprendre comment pouvait se sentir quelqu'un qui passe à travers une séparation. Après 5 ans de mariage, son mari a dit carré. Il dit, on se laisse, ça ne marche pas, c'est fini. Puis cette femme-là m'a dit ceci. Elle dit, Normand, en fait, il m'a demandé, du jour au lendemain, arrête de m'aimer. Arrête d'aimer. Elle dit, ça ne se commande pas. Comment tu peux arrêter ça? Ça fait 5 ans que tu aimes quelqu'un, puis tout ça, du jour au lendemain, tu es obligé d'arrêter de l'aimer. Il y a des gens qui vont se laisser, qui vont s'abandonner. Tu vas te retrouver tout seul. C'est des crises, ça, dans nos vies. Mais fort heureusement, on sait que Dieu ne nous laissera jamais. Nous avons la promesse de Dieu. Dieu dit, « Je suis Jéhovah Shammah, celui qui est toujours là. Je ne t'abandonnerai jamais. » Et sa présence nous garantit qu'il veille sur nous, qu'il est attentionné. Psaume 32:8 dit, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Le mot « instruire » dans l'original veut dire « conduire », indiquer le chemin. On ne peut pas contrôler l'avenir, mais Dieu connaît l'avenir. Dieu peut contrôler l'avenir. Et ce même Dieu qui connaît et contrôle l'avenir est prêt à nous guider, à nous instruire, à nous diriger, à diriger nos pas. Il y a beaucoup d'espoir là-dedans. On se retrouve très souvent dans le désespoir quand on ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais tu sais, ce qui nous donne l'espoir, c'est qu'on a besoin, on n'a pas besoin de tout comprendre. C'est de savoir que Dieu, lui, comprend tout. Dieu sait tout. Dieu contrôle tout. Lui, il sait. Lui, il comprend. Il est le Jéhovah Shammah qui est prêt à me guider. Lamentations 3:21 dit ceci. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Réalises-tu que peut-être qu'aujourd'hui, ça va bien mal? Peut-être qu'aujourd'hui, tu as juste hâte que la journée finisse. Ça va tellement mal que tu as hâte d'aller te coucher ce soir. Mais c'est une chose, c'est demain matin quand tu vas te réveiller, c'est une nouvelle journée avec Dieu. Réalises-tu que demain matin, c'est un nouveau départ? Et chaque matin est un nouveau départ avec Dieu? Dieu va construire un nouvel avenir demain matin. Dieu va te bénir demain. Dieu a en réserve des bénédictions pour demain matin. Réalise-tu ça? Qu'il y a des bénédictions que tu n'as pas tout de suite, que tu vas avoir demain matin? Ses compassions se renouvellent chaque matin. Chaque matin est un nouveau jour pour Dieu. Une nouvelle journée où il veut déverser sa grâce et sa bonté, ses compassions. Moi, il y a beaucoup d'espoir là-dedans, pas vrai? Jamais, jamais Dieu va se réveiller un jour puis dire, « Oh mon doux, je ne savais pas qu'il y aurait eu une épreuve de même, Normand. Celle-là, je ne l'attendais pas. Qu'est-ce que je vais faire? » Puis ça ne va pas en comité avec les anges pour demander des conseils. Jamais Dieu va être surpris par quelque chose qui va t'arriver. Dieu sait tout. Et Dieu va bénir. Dieu va te bénir cette journée-là. Parfois, on a de mauvais souvenirs. On se rappelle plusieurs erreurs qu'on a faites dans notre passé. Mais sais-tu, demain matin, c'est une nouvelle journée avec Dieu? Puis il va la bénir, malgré les erreurs que tu as faites dans le passé. Ça, c'est encourageant. J'ai besoin de cet espoir-là, de savoir ça. Dieu me donne un nouveau départ à chaque matin, une nouvelle journée à vivre avec un nouvel espoir. Deuxième source d'espoir, c'est que le dessein de Dieu se réalise en moi. Dieu réalise son but à travers ma vie, quoi qu'il arrive dans ma vie, positif ou négatif. Le dessein, le but de Dieu se réalise en moi. Réalise-tu ça? L'une des questions les plus difficiles pour nous, c'est « Pourquoi ça m'arrive? » T'es-tu déjà posé cette question-là? Pourquoi? Pourquoi? Honnêtement, on l'a-tu posé, cette question-là? Hein? Mes enfants étaient des experts. Je leur disais quelque chose, venez me voir. Ils étaient des experts dans cette question-là. Pourquoi, Père? Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Il y a des choses qu'on ne comprend pas, comme un accident, par exemple. Tu ne peux pas expliquer ça. Mais si on peut voir dans tout ce qui nous arrive qu'il y a un but derrière chaque chose et que Dieu connaît ça et est en train de faire arriver du bien avec ça, que Dieu va accomplir son plan, Dieu va accomplir ses buts, quelle assurance, quel espoir de savoir que Dieu travaille dans notre vie. Il n'y aura pas de surprise. Dieu a un plan puis il est en train de le réaliser quoi qu'il arrive. Dieu est en train de réaliser de belles choses dans ma propre vie et dans la tienne aussi, même des situations difficiles. Même des choses que tu ne comprends pas. Même si la situation est éprouvante. Romains 8, 28 nous le dit. Ça dit, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne dit pas « toutes choses concourent selon ce que je veux. » Ça ne dit pas ça. Ça ne dit pas non plus « toutes choses finissent bien sur terre. » Toute chose ne finit pas nécessairement bien sur terre. On n'aura pas toujours 100 sur 100 dans nos examens. La réalité, c'est que tout ne finit pas toujours bien. Malheureusement, il y a des couples qui ne vivent pas jusqu'à la fin de leur jour dans la joie, la félicité. Les décisions d'affaires ne finissent pas toujours avec de bons résultats. Les problèmes ne se règlent pas toujours. Mais le verset dit d'abord, nous savons. Nous savons du reste que toute chose. Ça, ça parle d'assurance. Nous savons que cette expression est pleine et bourrée d'espoir. Ce n'est pas des peut-être, c'est une certitude. Ce n'est pas un désir, ce n'est pas de la pensée positive. Tu as beau passer 3 heures et dire « Ah, c'est correct, c'est correct. Ouais, c'est correct. » Mais gros speech de motivation. « Ouais, c'est correct. On est meilleur, c'est correct. » Mais tu es tout seul. Fait que ça va pas bien, puis tu es tout seul. Mais avec Dieu, tu n'es pas tout seul. Amen. Tu peux dire, ça va aller bien. Demain, c'est une nouvelle journée. Mon boss m'a peut-être crié après vendredi, mais lundi matin, c'est une nouvelle journée. Puis Dieu va faire quelque chose. Amen. Ça, c'est plus que de la pensée positive. C'est que tu as Dieu sur ton bord. Tu as quelqu'un qui travaille, qui est en train de réaliser son plan dans ta vie. Est-ce que ça veut dire que même la maladie, Dieu va concourir même la maladie pour ton bien? Ça veut-tu dire ça? Est-ce que Dieu peut faire du bien avec le chômage, tu es en chômage, tu as perdu ton emploi. Est-ce que même Dieu peut faire concourir ça, ta perte d'emploi, pour ton bien? Absolument. Vois-tu, ta vie est placée sous la baguette du chef, du grand chef d'orchestre, le Jéhovah Shammah. Je suis le Dieu qui est toujours là. Dieu a un plan. La chance n'existe pas et Dieu ne fait jamais d'erreur. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et toute chose, ça comprend la maladie. Toute chose, ça comprend le chômage. Toute chose, ça comprend même le divorce. Est-ce que Dieu peut même prendre un divorce et le faire concourir pour ton bien? C'est-tu vrai? Est-ce que Dieu peut aller jusque là? Toutes choses, même l'échec, les accidents même, le bon et le mal, les choses que je fais, les choses que je ne fais pas, ce que je contrôle, ce que je ne contrôle pas, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne dit pas tout est bon. Ça ne dit pas non plus que Dieu fait toutes ces choses mal-là, mais ça dit que Dieu va prendre tout dans ta vie, tous les ingrédients, tout ce qui se passe, même s'il y a des choses amères, des choses difficiles, puis il va les faire concourir à son bien, à ton bien. Laisse-moi donner un exemple. Tiens, j'ai besoin de Robert pour ça. Robert, viens 6 minutes. Ici, Robert, j'ai besoin de toi, là. Ben c'est ça, c'est moi qui l'ai endormi, fait que c'est moi qui vais le réveiller. Hé, hey Robert, viens ici. Hey, moi, ici, j'ai les beaux ingrédients pour un gâteau. J'ai les ingrédients qui vont dans un gâteau.
Tu as raisin dedans?
Pas de raisin. La farine. Regarde. Laisse-moi ça te donner, de la farine. Ah, la farine. C'est bon, la farine? En veux-tu de la farine?
Non.
Oh non. Je suis là-dedans, c'est un cadeau.
Je peux y goûter, si tu veux.
Ah, goûte-y. Tiens. Attends, il est en train de faire le gâteau dans sa bouche.
C'est pas bon, hein?
Avec ça, j'ai fait ma
colle à tapisserie. Ah, ouais.
C'est-tu bon? Honnêtement, là.
T'as quoi, la tapisserie? La femme va être contente.
La farine.
C'est pas bon du tout, hein?
Non, c'est pas bon, hein?
Pas du tout.
Tu prends des affaires, même qui sont amères, qui ne sont pas bonnes. Tu prends un œuf, c'est pas cuit, tu manges ça. C'est-tu bon? Honnêtement, là. C'est pas bon. Tu prends de la farine, c'est dégueu. Hein? C'est pas bon. Mais tu mets tout ça ensemble, là. Hein? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait. T'es-tu correct, toi, là?
Je suis correct.
Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un beau gâteau. Hein?
Toi, tu vas manger le gâteau, moi,
la farine? Tu penses-tu m'as mangé la farine? Tiens, il m'a donné un beau petit gâteau. C'est le gâteau de ma belle-mère. Fait qu'il est très bon. Malheureusement, il a trempé dans la farine, mais c'est pas grave. Tiens.
Il va manger en haut.
Ah, tiens, je te pose même une fourchette.
Tu peux
le
manger ici ou là-bas?
Ah, tu peux en manger un petit morceau? Ben oui. Tu me diras s'il est bon.
C'est ta belle-mère?
C'est ma belle-mère.
Il est certainement bon.
C'est ça.
Je ne peux pas dire qu'il n'est pas bon.
Gâteau carotte, t'aimes ça?
Excellent, envoyez-vous.
Correct, tu peux aller avec. Merci.
Prends ton verre d'eau aussi.
Oui, amène le verre d'eau. Voyez-vous, tu prends les ingrédients à part un à un. C'est affreux. Hein? Des fois, il y a des situations comme ça dans notre vie. Un des éléments de ta vie est peut-être très amer. Ça t'étouffe même. Hein? Mais tu mets ça ensemble et Dieu met tout ça ensemble. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un chef-d'œuvre culinaire avec ça. Il va faire un chef-d'œuvre avec ça. Tout comme tu vas prendre des ingrédients qui sont en soi pas bons, mais tu les mets ensemble, ça fait un chef-d'œuvre. Sais-tu, Dieu va faire la même chose avec toi. Oui, il y a peut-être la maladie dans ta vie. Ça, c'est amer pour toi. Mais Dieu est même capable de prendre la maladie et faire du bien, concourir du bien à ça. Est-ce que c'est possible? Dieu est capable et Dieu le dit, c'est ce que je vais faire. Dans Jérémie 29, 11, Dieu dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Sais-tu que Dieu a un avenir pour toi? Dieu a des projets pour toi? « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et vous donner de l'espérance. » Dieu veut nous donner un avenir et Dieu veut nous donner de l'espérance. Vous croyez peut-être en ce moment que ce qui vous arrive est dur et n'a aucun sens, mais Dieu dit, j'ai des projets pour toi, de bons projets. Fais-moi confiance. J'ai des projets qui te donneront un avenir et vont te donner l'espoir. Peut-être que tu t'es éloigné du Seigneur dernièrement. Tu n'es pas aussi prêt que tu aimerais être prêt. Mais j'ai un verset pour toi, parce que même là, il y a de l'espoir. Philippiens 6 dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu veut même donner de l'espoir à toi qui s'est éloigné du Seigneur peut-être dernièrement. Et il veut que tu reviennes à lui, tu te colles à lui. Et il veut te donner un avenir pour toi. Dieu commence de quoi dans ta vie puis il veut le finir. Il va le finir. Tu peux peut-être croire qu'il est trop tard pour toi, mais c'est faux. Si tu reviens au Seigneur aujourd'hui, viens à lui. Seigneur, il ne dira pas « Je me suis trompé ». Il ne s'est pas trompé, le Seigneur. Il va continuer son œuvre en toi. Ce qu'il a commencé, il va le finir. Troisième source d'espoir, sur lequel on peut s'accrocher, c'est que la demeure de Dieu m'attend. Dieu est parti nous préparer une place, et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14. Il dit ceci, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, je m'en vais vous préparer une place. » Dieu prépare le ciel pour nous autres, une place où il n'y a pas de deuil, pas de souffrance, pas de douleur, pas de larmes, une belle place. Sais-tu que le ciel a une adresse? Puis il veut t'emmener là. Une place concrète qu'il est en train de préparer. Apocalypse 21:4, ça dit, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Où trouver ce genre d'espoir? C'est en ayant une relation personnelle avec Jésus-Christ. Lorsque tu as ce genre de relation, tu sais que Dieu veille sur toi. Tu sais qu'il est en train de réaliser son plan dans ta vie et que sa demeure t'attend. On ne peut pas faire autrement que d'avoir de l'espoir, quoi qu'il nous arrive. Peut-être que ce matin, vous êtes pris dans un mariage qui ne fonctionne pas. Tu as essayé toutes sortes de choses, mais ça ne fonctionne pas. Ou c'est à ton travail, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Donne ça au Seigneur Jésus. Lorsqu'on met ça à notre Seigneur, dans ses mains, on peut découvrir un nouvel espoir qui va émerger de notre cœur. Et c'est du concret. 1 Pierre 1:3 dit, « Louons Dieu dans sa grande bonté. Il nous fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante. » Notre espérance est vivante parce que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Il a prouvé la même puissance qui a relevé Jésus-Christ d'entre les morts. Cette même puissance-là va faire réaliser son plan en vous, va vous donner de l'espoir, va se manifester dans votre vie. Je ne sais pas si vous avez entendu le témoignage tellement puissant diffusé à la télévision récemment. Vous savez, cette prise d'otage à Atlanta, un meurtrier du nom de Brian Nichols qui a séquestré une femme de 26 ans, du nom de Ashley Smith, une veuve dont le mari s'est fait tuer il y a 4 ans. Elle vit seule avec sa petite fille dans son logement, petite fille de 5 ans. Après avoir tué 4 personnes, dont un juge, je pense la procureure, un garde, et après en avoir blessé un 5e, Brian Nichols s'est sauvé. Il s'est retrouvé à 2h du matin avec un gun à la main après avoir tué ses gens. Il s'est enfui. Il s'est retrouvé à 2h du matin dans le stationnement d'un bloc appartement. Puis il y avait une femme qui était à sa voiture. Elle venait d'arriver de faire des commissions. Elle rentrait à la maison. Et puis Brian Nichols a placé le gun à sa tempe et l'a séquestré, l'a forcé d'entrer dans son logement. Il a passé toute la nuit là-bas. Lui, il n'avait plus rien à perdre. Il venait de tuer 4 personnes, de blesser un 5e. Il s'est retourné à la prison. De toute façon, à la vie, il n'avait absolument plus rien à perdre. Et voilà qu'il est dans un logement d'une femme sans défense. Est-ce que c'est sans défense? Ça donnait que Ashley Smith est un enfant de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui. C'est une chrétienne. Alors, Ashley Smith a commencé à parler de son Dieu et de sa foi à Brian Nichols. Alors que la police, les autorités, les juges, les avocats, personne, les experts n'ont pas été capables d'arrêter cet homme-là qui avait un gun, cette femme douce, gentille, un enfant de Dieu, une femme qui a de l'espoir en Dieu, alors qu'elle se trouvait dans une situation qui, à nos yeux, était désespérée. Ce gars-là n'avait absolument rien à perdre. Désespérée. Mais cette femme avait mis son espoir en Dieu. Puis elle a commencé à ouvrir la Bible et lire des passages de la Bible à Brian Nichols. Elle a commencé à prendre un livre qu'elle avait à côté de son chevet, un livre qui est écrit par Rick Warren, « Une passion, une vie, une destinée ». Puis elle a commencé à lire le chapitre, je pense, c'est 33, où il parle que Dieu a un but pour ta vie. Elle a dit, « Sais-tu, Dieu a un but même pour toi. Tu peux peut-être penser que c'est fini, mais Dieu peut se servir de toi et il a un but pour toi. » Et elle a dit, « C'est peut-être de répandre sa parole en prison. » Et savez-vous qu'après avoir passé toute la nuit, elle a parlé de sa petite fille, puis elle a passé la nuit à lui parler de son Dieu et de sa foi. Elle lui a même fait des crêpes. Puis elle était calme, elle avait la foi, elle se reposait en Dieu. Et voilà qu'à travers toute la nuit, le matin, il lui a dit, « Écoute, tu es comme un ange qui est envoyé de Dieu. » Et il lui a dit, lui qui avait un gun, il a libéré, puis il a dit, « Téléphone 911, je vais me rendre à la police. » Alors que tout le monde avait essayé, personne n'avait été capable de l'arrêter. C'est un enfant de Dieu qui l'a calmé par son espoir en Dieu. Et savez-vous, cette femme tranquillement, il a téléphoné le 911. La police s'est rendue à toute vitesse. Il est sorti dehors avec un drapeau, un tissu blanc pour se rendre calmement. En sortant, il a dit « Dis bonjour à ta fille pour moi ». Et il est parti calmement chez eux. Les policiers ne comprenaient pas comment il avait fait pour changer le cœur de ce tueur-là. Comprenaient pas. Ils ont interviewé les policiers. Les policiers ont dit « On s'attendait au pire, on a eu le mieux, le meilleur ». Et les gens ont su que c'était à cause de sa foi. Partout, les journalistes ont commencé à téléphoner, à l'interviewer. Et savez-vous que son témoignage de sa foi en Dieu a fait le tour du monde? Même en Europe, en ce moment, sont en train de parler de Ashley Smith, comment elle a convaincu un tueur de rendre des armes et se donner à la police. Cette semaine, j'écoutais les nouvelles un matin à Today Show. Je regarde ça, c'est un journaliste qui l'interview, puis tu avais Ashley Smith qui était là, et elle racontait son témoignage de sa foi en Dieu, puis le journaliste à la télévision lui a demandé « Parlez-nous de votre Dieu à toute la nation, aux États-Unis. Parlez-nous de votre Dieu. Ça a l'air que vous avez cité des passages de la Bible. Parlez-nous de ça! » Et à CNN, lundi soir, ils ont même fait un programme « La foi en Amérique ». Et partout, tu pouvais entendre ça cette semaine, même dans la presse. Tout le monde parle de Dieu cette semaine, parce que quelqu'un a mis son espoir en lui. Est-ce que Dieu peut prendre les pires situations puis les faire tourner pour sa gloire? Est-ce que Dieu peut faire concourir les pires maux de la société et les faire concourir pour ton bien? Absolument. Prions le Seigneur. Mettons notre foi en lui. Oh Seigneur, comme il est merveilleux de pouvoir s'attendre à toi. Nous savons que Jéhovah Shammah est une promesse qui vient de ton cœur. Une promesse qui dit, je serai toujours avec toi. Je serai toujours là et ma présence t'assure que je veille sur toi. J'ai un but pour ta vie. Non seulement je veille sur toi, mais je vais réaliser mon destin dans ta vie. Et j'ai préparé une place pour toi, pour que tu sois dans ma présence, dans la joie pour l'éternité. Oh Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous savons où trouver de l'espoir, c'est en toi. Merci de ce que tu es, le Jéhovah Shammah, toujours présent, toujours là, toujours avec nous. Et peut-être que quelqu'un ce matin ici n'a jamais mis son espoir en toi. Il n'a jamais mis son espoir en Jéhovah Shammah et ce matin... Peut-être qu'il veut ouvrir son cœur à toi et venir à toi. Eh bien, j'aimerais prendre cette occasion pour t'inviter, toi qui es dans la salle. Et peut-être que tu n'as pas jamais dit oui à Jésus-Christ encore. Et ce matin, c'est le temps. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu veut être avec toi pour toujours. Alors viens à lui ce matin même. Dis oui à Jésus. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui s'est éloigné de toi dernièrement. Et ce matin, je veux dire, Seigneur, j'ai fait des erreurs, je me suis trompé, mais ce matin, je veux m'accrocher à toi parce que tu es le Dieu de l'espoir. On ne peut pas trouver l'espoir en d'autres que toi, Seigneur. Je ne veux pas me tromper, je veux mettre ma foi en toi. Et pour nous, Seigneur, qui sommes ici ce matin, tous et chacun, nous voulons renouveler notre décision d'avoir confiance en toi, de mettre notre espoir en toi, parce que toi, Seigneur, tu es sûr, tu es comme un ancre, tu es solide. On se livre à toi, Seigneur, parce que Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Alors nous savons que c'est cette parole, cette promesse que tu as faite est vraie. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce. Amen.